Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Stéphane Carpentier.
Bonsoir à vous tous, heureux de vous retrouver pour deux heures d'information ce vendredi soir qu'on vous souhaite évidemment excellent. À la une ce soir, les industriels du tabac dans un bureau du ministère de l'Environnement. Brune Poirson les a reçus cet après-midi. Elle déclare la guerre aux mégots de cigarettes car si fumée tue, les mégots, eux, polluent. La secrétaire d'État met la pression sur les industriels, exige une éco-contribution. Dans RTL Soir, toutes les explications, réactions de cigarettiers. Brune Poirson, la ministre, notre invitée en direct à 18h20 tout à l'heure. Elle nous dira si elle est satisfaite du face-à-face et le dossier fumant sur la table dont refait le monde tout à l'heure à 19h15. RTL Soir, première édition avec vous, Céline Landreau, bonsoir.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Et les autres titres.
Les militants identitaires s'attaquent au siège de l'ONG SOS Méditerranée. La police a dû intervenir. 22 personnes sont en garde à vue à Marseille. Alexandre Benalla face au juge d'instruction. L'ancien chargé de mission à l'Élysée s'est expliqué de longues heures sur ses interpellations musclées du 1er mai. L'inquiétude des salariés de Casino. Le groupe veut vendre une vingtaine d'hypermarchés. 2000 salariés seraient concernés. Le prix Nobel de la paix pour deux défenseurs des femmes, le médecin congolais Denis Mukwege et la yazidi Nadia Mourad, sont récompensés par l'Académie pour leur combat contre le viol de guerre. Et puis l'hommage de deux nations à Charles Aznavour. Cérémonie très solennelle ce matin aux Invalides. La Bourse de Paris termine en baisse ce soir. Moins 0,95%. Le CAC 40 s'établit à 5359 points.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, la redevance audiovisuelle. Normal que tout le monde y contribue, disait ce matin sur RTL Aurore Berger, mais au fait, qui la paye et combien ça rapporte? Puis direction les coulisses de l'actu, on vous ouvre ce soir les portes d'un Versailles inconnu, 4000 mètres carrés, visitable à partir de demain à l'occasion d'une nouvelle exposition. C'est passionnant et magnifique, la visite guidée tout à l'heure avec Sophie Orange. 18h30, Olivier Mazerolle. 18h35, la prise de parole sur RTL d'un député accusé d'agression sexuelle par une ancienne collaboratrice. Christophe Arendt, député La République En Marche, la poursuit pour dénonciation calomnieuse. Le procès programmé ce matin est reporté car celle qui travaillait pour lui a déposé une seconde plainte. Christophe Arendt se défend ce soir et pointe du doigt les dérives possibles un an après MeToo. La météo, Patricia Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Après un vendredi tout soleil, retour de la pluie demain par l'ouest.
Oui, sur l'ouest du pays, un temps de plus en plus nuageux au fil de la journée et déjà de la pluie dès demain matin sur le nord-ouest du pays, des pluies qui vont s'intensifier et prendre un caractère orageux, alors que sur la moitié ce sera dans l'ensemble encore une très très belle journée, sauf en Corse où les conditions météo seront très instables demain. Et d'ailleurs la Haute-Corse est maintenant placée en vigilance orange. Les températures de 6 à 18 degrés demain matin et 13 à 28 dans l'après-midi. Ça baisse sous la pluie sur le nord-ouest avec seulement 13 degrés à Brest, mais c'est encore très estival partout ailleurs, jusqu'à 27 à Bourges et 28 à Montauban.
Merci Patricia.
RTL Soir.
L'association SOS Méditerranée attaquée par des militants d'extrême droite à Marseille.
Le siège de l'ONG qui vient en aide aux migrants a été envahi et brièvement occupé en début d'après-midi par des militants de Génération Identitaire. Une vingtaine d'activistes qui ont été rapidement interpellés par les forces de l'ordre, Étienne Baudu.
Oui, écoutez, dans cette rue proche de la Canebière, aucun signe extérieur ne prouve la présence de l'association qui veut rester discrète ici. La vingtaine de militants d'extrême droite sont pourtant montés directement au troisième étage. Là se trouvaient 5 bénévoles choqués par cette intrusion musclée. Les militants de Génération Identitaire ont ensuite déployé une banderole rouge avec inscrit dessus SOS Méditerranée, complice de trafic humain. Thibault a assisté à la scène depuis la rue.
Ils ont crié Génération Identitaire, c'est tout. Et ils ont mis les fumigènes. Après, pas plus que ça, la police est arrivée et ils étaient assez calmes à la sortie en fait. Il y avait quand même pas mal de policiers, il y avait les CRS, ils ont embarqué, voilà.
Et 22 militants ont été interpellés par la police, arrivés très rapidement sur place, certains menottés. Les gardes à vue sont en cours. Thibault, lui, ne comprend pas cette violence.
Moi, je comprends pas ces gens-là dans le sens où SOS Méditerranée, ils sont là pour aider des gens qui sont réfugiés, ils sont là pour aider des humains. Donc pourquoi avoir la haine et pourquoi militer contre eux? Je sais pas du tout, moi je comprends pas ces gens-là.
Et Génération Identitaire a sans doute voulu faire un coup d'éclat avant la mobilisation demain dans plusieurs dizaines de villes en France, autour justement de SOS Méditerranée et de son navire l'Aquarius, bloqué à quai à Marseille.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
Après les questions des sénateurs, celle des juges d'instruction. Alexandre Benalla était entendu aujourd'hui par la justice pour la première fois.
Et il a répondu pendant plus de 4 heures aux questions des magistrats. Celle-ci ne portait pas seulement sur l'interpellation du jeune couple place de la Contrescarpe le 1er mai dernier. L'ancien chargé de mission à l'Élysée a aussi dû s'expliquer sur les événements du Jardin des Plantes, Thomas Proutot.
Absolument, c'est en tout cas ce que prévoyait la convocation des juges. Car Alexandre Benalla est visé aujourd'hui par 5 plaintes en tout pour violence en réunion, 2 à la Contrescarpe, vous le disiez, et 3 un peu plus tôt au Jardin des Plantes, donc le même jour, 3 manifestants qui affirment eux aussi avoir été violemment interpellés par l'ex-conseiller de l'Élysée et son comparse Vincent Crase. Face au juge, Alexandre Benalla, entouré de ses deux avocats, a donc commencé à livrer ses explications. Qui l'avait autorisé à participer aux manifestations comme observateur aux côtés des forces de l'ordre? Pourquoi a-t-il procédé à des interpellations hors de tout cadre légal? Mais aussi, comment a-t-il eu accès en juillet aux bandes de vidéosurveillance de la préfecture de police de Paris après la révélation de l'affaire? Qui, enfin, à l'Élysée, a visionné ces enregistrements, ce qui pourrait constituer une infraction de recel? Des réponses réservées au juge. Alexandre Benalla est reparti du palais de justice un peu après 15h, dans une berline avec chauffeur, sans faire aucune déclaration.
Thomas Proutot du service police-justice de RTL. Jean-Marc Reiser était lui aussi entendu pour la première fois par le juge d'instruction. Aujourd'hui, il est mis en examen pour l'assassinat de Sophie Le Tan, mais continue de nier tout lien avec la disparition de la jeune étudiante de 20 ans qui a disparu début septembre à Strasbourg.
Tiens, une question à présent. Où est passé le patron chinois d'Interpol? Une enquête est ouverte, Céline, en France après sa disparition.
Ouais, la famille Dong Weimeng n'a plus de nouvelles de lui depuis son départ pour la Chine fin septembre. Interpol ne fait aucun commentaire. Les autorités chinoises se taisent, elles aussi. Mystère, donc, Jean-Alphonse Richard, quelles sont ce soir les pistes des enquêteurs?
Eh bien, en fait, ce soir, les enquêteurs, que ce soit ceux de la police judiciaire ou des services de renseignement français, tous ces hommes sont en train de vérifier point par point l'emploi du temps d'Ong Weimeng le jour de sa disparition, le 29 septembre. Son épouse dit n'avoir plus aucune nouvelle de lui depuis cette date. Le président d'Interpol, 64 ans, avait réservé ce jour-là un vol pour Pékin. D'après les premières constatations, Ong Weimeng aurait bien embarqué à bord de cet avion. De sources policières, on indique que ce dignitaire chinois, il a été ministre de la sécurité intérieure dans son pays, n'a pas disparu sur le territoire français. Pas davantage de précisions, mais tous les regards se tournent désormais vers la Chine. Un journal de Hong Kong affirme que Ong Weimeng a en fait été arrêté à sa descente d'avion par les autorités chinoises, puis placé au secret dans le cadre d'une enquête pour corruption. Son épouse n'aurait pas été prévenue. Information non confirmée officiellement. Ce soir donc, le patron d'Interpol est toujours porté disparu.
Merci Jean-Alphonse Richard. Et à l'instant, le ministère de l'Intérieur affirme que Paris, la France, donc, s'interroge et se dit préoccupé par les menaces contre la femme du Chinois.
Dans l'actualité, nous avons le gouvernement qui part en guerre contre les mégots et menace de taxer les cigarettiers.
Et chaque année, 30 milliards de mégots sont jetés dans la nature ou dans la rue. Des mégots qui polluent et qui coûtent cher aux contribuables. Le gouvernement veut donc mettre les industriels du tabac face à leurs responsabilités. Ils étaient reçus en début d'après-midi au ministère de la Transition écologique pour présenter leurs propositions. Et pour Eric Sensiminautier de British American Tobacco, il faut d'abord commencer par éduquer les fumeurs.
Le mégot est un déchet dont on ne peut pas faire grand-chose. Et par conséquent, sa destination naturelle, ça doit être d'aller dans la poubelle d'ordures ménagères. Et il y a certainement des informations et une éducation à apporter aux consommateurs pour lui faire prendre conscience des conséquences néfastes de son geste. Naturellement, nous assumerons notre responsabilité financière, nous paierons pour ce qui est pratique, efficace et qui a un sens. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ce qui est important, c'est de se mettre avant tout d'accord sur un certain nombre d'actions qui sont susceptibles de réduire cette problématique du jet de mégots et leur impact environnemental. Et le chiffrage, c'est le résultat de cette approche.
Éduquer les fumeurs, le porte-parole de British American Tobacco au micro RTL d'Annelise Bouissou. On va voir ce qu'en pense à 18h20 la secrétaire d'État Brune Poirson, qui est l'invitée de RTL Soir.
Après une première introduction hier, une deuxième ours a été lâchée ce matin dans les montagnes du Béarn en Pyrénées-Atlantiques. Les deux femelles qui avaient été capturées en Slovénie attendent des petits qui pourraient naître l'année prochaine.
Vous restez bien avec nous dans un instant, la suite de RTL Soir avec l'homme qui répare les femmes sacrées, prix Nobel de la paix. A tout de suite.
18h10, RTL Soir avec Stéphane Carpentier et la suite du journal de Céline Landreau.
Il lutte contre les viols de guerre. Le médecin congolais Denis Mukwege et la yazidi Nadia Mourad ont été récompensés du prix Nobel de la paix.
La jeune femme de 25 ans, ancienne esclave sexuelle de l'État islamique, est depuis 2016 ambassadrice des Nations Unies pour la dignité du trafic d'êtres humains. Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, a lui soigné quelques 50 000 victimes de viols dans l'hôpital qu'il a fondé à Pondi, en République démocratique du Congo. Et il a d'ailleurs appris appris la nouvelle au bloc opératoire, Brice Dugenny.
Oui, parce que tous les vendredis, depuis 20 ans, le professeur Mukwege opère entouré de son équipe. C'est donc là qu'il a appris la nouvelle, comme il l'a expliqué au comité Nobel.
J'étais en train de terminer ma deuxième opération de la journée. Des femmes autour de moi ont commencé à crier, à pleurer. Et j'ai pu voir alors dans le visage de nombreuses femmes à quel point elles étaient heureuses que leurs souffrances soient ainsi reconnues.
Une reconnaissance aussi pour ce chirurgien congolais de 63 ans, prétendant au prix depuis une dizaine d'années. En 2014, Denis Mukwege a d'ailleurs reçu le prix Sakharov pour ce même combat. À l'époque, en français, il prononce un discours très fort devant le Parlement européen.
Quel est cet être humain doué de conscience qui s'est terré quand on lui amène un bébé de 6 mois dont le vagin a été détruit, soit par la pénétration brutale d'un adulte, soit par des objets contondants, soit par des produits chimiques. Déjà, un seul cas de viol est grave dans mon pays. Il y a des centaines de milliers de femmes violées. Comment pouvons-nous nous taire ?
Aujourd'hui, dans l'est du Congo, toujours en proie au combat, il a dédié ce Nobel aux femmes avec ces mots. À travers ce prix, mesdames, le monde refuse de rester les bras croisés face à vos souffrances.
Brice Dugenny pour RTL, merci.
On en vient à cette inquiétude chez les salariés du groupe Casino. La direction a confirmé qu'elle allait vendre une vingtaine d'hypermarchés.
Un projet de restructuration de la branche restauration est également en préparation. Les syndicats n'ont pas obtenu plus de détails. On ignore ainsi quels sont les magasins concernés. Mais 2000 salariés pourraient être touchés. Thomas Meyer, délégué UNSA du groupe Casino.
Ça n'a que fait confirmer nos grandes inquiétudes, sans préciser le nombre d'hypermarchés, mais on est bien sur une tranche de 20-25 hypermarchés. Nous n'avons pas de liste, donc on n'a pas d'informations sur les hypermarchés concernés, bien que certains, peut-être les moins rentables. On peut toujours se poser la question que les moins rentables seront les premiers à être cédés. À raison d'une centaine de salariés en moyenne par hypermarché, ça peut représenter 2000 salariés. Et donc au niveau impact social, on a de quoi être très inquiet.
Thomas Meyer, délégué UNSA du groupe Casino avec Eric Vanier pour RTL. Nouveau coup dur pour Toyota. Le constructeur rappelle plus de 2 400 000 voitures hybrides. Toyota évoque un problème de logiciel qui peut provoquer l'arrêt inopiné du véhicule. Près de 38 000 voitures sont concernées en France.
Les adieux de la nation au maître de la chanson française. L'hommage national à Charles Aznavour avait lieu ce matin aux Invalides.
Plus de 2 000 personnes, artistes, politiques et anonymes étaient venues assister à la cérémonie. C'est sur une musique traditionnelle arménienne que le cercueil du chanteur a fait son entrée avant que les chefs d'État français et arméniens ne prennent la parole pour un éloge funèbre.
Les chansons d'Aznavour sont d'abord des paroles. Ce sont des mots qui sont venus nous toucher au cœur. Et une grande majorité de Français s'est aujourd'hui spontanément poursuivre quand on commence à dire « Je me voyais déjà, je vous parle d'un temps, j'habite seul avec maman, hier encore, emmenez-moi. » Il savait, dans sa chair, que la France véritable est celle qui accueille, qui ne se racornit pas dans la peur obsidionale, mais continue de vivre dans l'hospitalité et la transmission aux nouveaux venus, dont il n'a jamais oublié qu'il avait fait partie.
Aznavour est celui qui a porté le nom des Arméniens sur le toit du monde, qui a donné une nouvelle couleur et un nouvel élan à la fierté arménienne.
Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu quelqu'un de proche.
Oui. Il a bercé, si vous voulez, toute notre jeunesse. On a entendu toute la famille chanter. On est venu rendre hommage à l'homme, au grand monsieur qu'il est.
Emmenez-moi, repris par la garde républicaine. Séquence captée par Laurent Marsic pour RTL.
Merci Céline Landron. On vous retrouve à 18h30, bien sûr, sur la première radio de France pour un rappel des grands titres de l'actualité de ce vendredi.